Bonsoir, enseigner pour transformer, former pour bâtir. Tel est le thème de la journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année en RDC. Dans son message à l'occasion de cette journée dédiée à l'enseignant congolais, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a souligné que l'école doit impérativement redevenir le socle de notre résilience collective. Pour cette année 2025, pas d'activité festive en raison du respect de la solidarité envers les élèves et enseignants victimes de la guerre dans l'est du pays, selon un communiqué signé par le secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Dans les provinces du Nord et Sud Kivu, ce 30 avril revêt une dimension particulièrement douloureuse pour les enseignants des zones occupées. Selon de nombreux témoignages poignants, ils n'ont perçu aucun salaire depuis 3 mois. Face à cette situation alarmante, ces enseignants lancent un appel pressant au gouvernement afin d'améliorer urgentement leurs conditions de vie et de travail. Quel est votre avis sur les conditions des enseignants en RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 30 avril 2025. Participe au débat Cécile Tiombo, secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle. Cécile Tiombo, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir les auditeurs.
Aussi avec nous dans ce débat, Jean Bosco Pouna, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Jean Bosco Pouna, bonsoir.
Bonsoir madame, merci.
Et avec moi dans ce studio, Joseph Godet Kayembe, il est président du conseil d'administration de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISA de l'Ensigle. Godet Kayembe, bonsoir.
Bonsoir madame.
Alors tous nos efforts pour avoir le ministère de l'Éducation nationale dans cette émission sans rester vain. À Bukavu Sud Kivu, vous nous suivez sur la 95.3 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
En ce jour de reconnaissance nationale, nous rendons hommage aux enseignantes et enseignants de la République, à celles et ceux qui, dans les villes comme dans les villages, s'élèvent chaque matin pour transmettre le savoir, éveiller l'esprit critique et forger les consciences, parfois dans des conditions difficiles. C'est en ces termes que s'est exprimée la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement. Pour Raissa Malou, l'école doit redevenir le berceau de notre résilience collective. Enseigner pour transformer, former pour bâtir, tel est le thème de cette année 2025. Je vous propose de suivre Raissa Malou, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, dans ses propos recueillis par Blaise Chindani.
À travers ce thème, nous réaffirmons une vérité simple mais fondamentale. L'éducation est le premier chantier de toute transformation durable. Former, c'est bâtir des hommes et des femmes capables de façonner leur avenir et de construire la nation. À cette occasion, je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui, chaque jour, avec patience et abnégation, transmettent nos savoirs et valeurs dans nos écoles. Nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos inspecteurs, nos cadres administratifs portent l'espérance de la République. Grâce à eux, et malgré les défis, notre école avance. Grâce à eux, l'idéal d'une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité devient peu à peu une réalité. Ces dernières années, ensemble, nous avons semé les graines de la transformation. Nous avons élargi l'accès à l'éducation grâce à la politique de gratuité chère au président de la République, chef de l'État. Nous avons bâti en construisant plus de 400 nouvelles écoles et en lançant dès cette année la réalisation de 3000 salles de classe supplémentaires. Nous avons amélioré la qualité en renforçant la formation continue des enseignants, en réformant nos examens nationaux et en intégrant progressivement le numérique dans l'apprentissage.
C'était la ministre Raissa Malou, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Cécile Tshiombo. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, en sigle enseigner pour transformer, former pour bâtir. C'est le thème retenu pour cette année, hein, à l'occasion de la journée de l'enseignant, hein, de l'enseignement célébré le 30 avril de chaque année. Que vous inspire ce thème?
Ce thème veut tout simplement nous informer qu'il est nécessaire que l'éducation nationale, et aujourd'hui, il y ait ajouté la dimension nouvelle citoyenneté, qu'il faut avoir des femmes et des hommes honnêtes pour que le pays aille de l'avant. Cependant, nous comprenons tous qu'il est nécessaire d'avoir des enseignants de qualité pour qu'il y ait une éducation de qualité. Cependant, le recrutement qui se fait nous fait voir que les enseignants que nous avons aujourd'hui dans notre pays, il y en a ceux que nous appelons les moutons noirs. Et pourtant, il est nécessaire de former pour construire et aussi pour transformer. Il est nécessaire que les enseignants soient réellement formés comme il se doit, que ces pédagogues doivent être réellement les hommes et les femmes pris en charge comme il se doit pour qu'on arrive à une construction et un développement récurrent, tout simplement puisque il est temps et qu'il est nécessaire que nous ne puissions pas rester dans les discours, mais que nous soyons dans la pratique au lieu que nous soyons toujours dans les théories.
Alors, dans son discours, Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale, dit que le gouvernement a amélioré la qualité en renforçant la formation en continu des enseignants, en réformant les examens nationaux, en intégrant progressivement les numériques dans l'apprentissage. Vous n'êtes pas très d'accord avec elle lorsque l'on vous suit. Pour vous, aujourd'hui, on n'a pas...
Une formation continue. La formation continue doit se palper. La formation continue doit se palper et elle peut être contrôlée et prouver réellement qu'il y a un certain pourcentage par rapport à ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. S'il faut parler du numérique, nous sommes dans un pays où non seulement les gens de la capitale, depuis chez moi ici, à la maison, il n'y a pas du courant. Comment nous pouvons parler de l'intégration du numérique à l'intérieur du pays? Nous avons les élèves, nous avons les enseignants de l'Est de la République, là où les Rwandais, avec l'agression, sont là en train de faire rage de la guerre. Et alors, le numérique qui est en train d'être intégré progressivement va arriver quand il faut avoir des téléphones intelligents et des ordinateurs. Et à côté de cela, il est très nécessaire qu'il y ait des courants électriques. Et comment nous pouvons y aller, même sur place ici, dans la capitale? Nous avons connu cette expérience avec la COVID-19, mais les cours à distance qui s'étaient donnés, est-ce qu'ils peuvent être évalués aujourd'hui et à quel pourcentage? L'évaluation de tout ce que nous sommes en train de nous dire doit se faire avec les partenaires pour qu'ensemble nous puissions réellement savoir et y palper du doigt, y entrer du doigt, y pointer du doigt, mettre les points sur les i pour savoir réellement qu'il y a intégration et il y aura intégration du numérique et que la formation continue à y aller réellement. C'est moi qui suis partenaire du gouvernement, il doit évaluer est-ce que ça a eu lieu, les enfants, les niveaux de l'enfant. C'est nous qui avons lutté pour la gratuité de l'enseignement, et à y rétropédalage pour les secondaires et les humanités. Mais en primaire aujourd'hui, si nous prenons les écoles primaires de la capitale, est-ce qu'il y a réellement gratuité? S'il y en a, je vais évaluer à 30%, puisqu'il y a les écoles qui commencent à dire les 10 dollars c'est pour l'auto-prise en charge. Si nous allons dans des écoles que vous connaissez, les parents versent l'argent ailleurs pour dire que ce sont des ONG. Vous le savez bien, et ce n'est pas la première fois que nous le disons.
Merci, Madame Thiobo. On vous garde.
Chercher à parler, à toucher et à comprendre avec tous les partenaires sociaux pour que nous puissions savoir réellement ce qu'elle est en train de nous dire. Et bien, n'empêche que nous puissions les remercier pour nous avoir félicités.
Merci. On vous garde encore dans cette émission, Cécile Tshiombo, Jean Bosco Pouna. Vous êtes porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Alors, que pensez-vous du thème retenu pour la journée de l'enseignement qu'on célèbre chaque 30 avril en RDC?
Oui, merci madame. Merci de nous avoir conviés à ce débat. Mais il faut déjà dire que nous faisons du surplace. Chaque ministre qui arrive à la cité de l'EPST, à la cité de l'éducation nationale, ce sont simplement des terminologies qui changent, mais les contenus restent les mêmes. Eh bien, chaque ministre, disais-je, qui arrive, il vient pour gratifier l'enseignant. L'enseignant est patriote, grâce à l'enseignant on avance, mais qu'est-ce qu'on fait réellement de l'enseignant? Alors, laissez-moi vous dire, madame, qu'il y a une nette distinction à faire entre la journée nationale de l'enseignement et la journée internationale de l'enseignant. La journée d'aujourd'hui n'est pas dévolue à l'enseignant. Et de manière subsidiaire, oui. Mais la journée d'aujourd'hui est dédiée à l'enseignement national. Ça veut dire exactement que c'est la pédagogie. Ce sont les pratiques pédagogiques qui sont mises en scène aujourd'hui. Et donc, nous devons comprendre quelles sont les méthodes, quelle est la pédagogie que nous appliquons pour pouvoir former notre jeunesse, pour pouvoir former les apprenants. Parce qu'au finish, il nous faut parler de la qualité des apprentissages, de la qualité des enseignements que nous dispensons à notre jeunesse. Et tout le monde sait que ce sont ces jeunes qui vont devoir prendre la relève demain. Et donc, si aujourd'hui ils ne sont pas bien formés, ce n'est pas aujourd'hui, eh bien, nous ne parlerons plus de cette République parce que nous n'aurons pas une jeunesse compétitive. Donc, la journée nationale de l'enseignement, c'est la journée qui est dédiée à la pédagogie, parlons de la pédagogie de qualité, mais aussi aux conditions qui doivent être liées à celui qui travaille. Parce que si celui qui travaille n'est pas motivé, on n'atteindra jamais la qualité de l'enseignement. Alors, nous avons tout suivi, madame la ministre d'État, revenir sur les concepts. L'école berceau de la résilience. Et, alors, il est important aujourd'hui qu'on ne puisse pas continuer à nous bercer avec des concepts. Que veut dire exactement ce concept? Berceau de la résilience. Au moment où nous tous nous savons que le gouvernement ne met pas assez de moyens pour pouvoir changer notre système d'enseignement. Je vais donner quelques indicateurs. Aujourd'hui, la pédagogie, les pratiques pédagogiques et tout ce qu'il y a comme innovation dans les nouvelles approches de l'enseignement dans tous les domaines, eh bien, l'enseignant est presque à côté. Madame parle du numérique, de la numérisation même de l'enseignement, c'est bien vrai. Mais quels sont les moyens qu'on met pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là? Pour prétendre à la qualité de l'enseignement, j'imagine, il faut absolument avoir des enseignants qui sont payés régulièrement. Aujourd'hui, nous sommes les 30, aucun enseignant n'est payé, vous comprenez que c'est un véritable problème. Je vais parler des enseignants qui sont à l'est de la République. Aujourd'hui, nous venons de tenir une grande assemblée générale et les enseignants ont recommandé que tous les camarades qui sont à l'est de la République, qui n'ont pas touché les salaires depuis le mois de janvier, qui n'ont pas touché leurs primes depuis le mois de janvier, mais qui continuent à presser, et que le gouvernement qui est à l'intérieur puisse faire quelque chose afin que leur situation soit débloquée avant l'organisation des épreuves. Parce que si la situation n'est pas débloquée, eh bien, l'organisation des épreuves sera entachée de beaucoup d'irrégularités, de beaucoup d'actes de fraude. Il faut que le gouvernement soit conséquent. Il y a donc ce problème-là de la motivation de l'enseignant et de la paye des enseignants de la République. Il y a également la question liée à la retraite de l'enseignant. Lorsque l'enseignant voit dans quelles conditions ceux qui ont travaillé, qui ont rendu des bons et loyaux services à la nation, lorsque l'enseignant regarde comment ces enseignants sont remerciés à la fin, eh bien, ils n'ont plus le cœur à l'ouvrage, eh bien, ils sont complètement démotivés. Et là également, je crois qu'il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Maintenant, arrivons au niveau des supports. D'abord, les infrastructures. Les infrastructures que nous avons aujourd'hui sont des infrastructures dépassées. Hein? Lorsque vous prenez ce contexte de la gratuité, aujourd'hui, les problèmes se posent véritablement. Il faut que davantage le gouvernement puisse se pencher sur cette question d'infrastructure pour résorber le flux qui est induit par la gratuité de l'enseignement. Et nous allons terminer peut-être par les équipements, les supports. Quels sont les supports que l'enseignant a pour accompagner son travail? Et donc, tout ça, ce sont des problèmes. Et donc, dès lors que nous n'aurons pas un budget public conséquent, et c'est le cas aujourd'hui, on ne fournit pas assez d'efforts. Quoi que nous ne pouvons pas ne pas reconnaître que le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, a quand même fait quelque chose, mais de manière globale, nous pensons que rien n'est encore fait, et il faut absolument qu'on se remette en cause, qu'on se remette en question, pour réqualifier notre système d'enseignement qui aujourd'hui, visiblement, est au rabais.
Merci Jean Bosco Pouna, Joseph Godet Kayembe, président du conseil d'administration de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL en sigle. L'école doit redevenir le berceau de notre résilience collective, enseigner pour transformer, former pour bâtir. Ce sont les propos de Madame Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Merci beaucoup, Madame, pour la parole. Et je pense que l'excellence, la ministre, lorsque elle dit que former pour bâtir, ça m'intéresse particulièrement parce que je me dis que les systèmes éducatifs devraient être en mesure de former les gens qui devaient être utiles pour la République. C'est-à-dire que former pour bâtir les hommes capables d'être utiles pour la République. Le grand problème qui se pose dans ce système, c'est que Madame la ministre, que je respecte, beaucoup, parce que c'est l'une des rares ministres qui n'est pas dans le système de magouille. Tout le monde est conscient qu'elle est correcte dans son comportement, mais elle a hérité une situation beaucoup plus dangereuse. Cette situation a détruit les systèmes éducatif et empêche même l'État à pouvoir accomplir sa mission. Je suis d'accord avec les syndicalistes lorsqu'ils plaident en faveur des enseignants, lorsqu'ils plaident en faveur d'amélioration des qualités, améliorer les salaires. Moi, je crois que parfaitement bien que lorsque les différents ministres, je parle du ministre Makonga, et suivi de l'autre ministre de l'UDPS, lorsqu'ils détruisaient le système, les syndicalistes étaient là. Aucun syndicaliste n'a pris l'initiative de bloquer, d'empêcher le ministre à pouvoir détruire le système. Parce que lorsque Macaire partait, il y a pratiquement 10 ans, le système éducatif, l'école, on avait 21 000 écoles. Aujourd'hui, on en compte 121 000 écoles. Et avec 121 000 écoles, dans un état où le budget reste constant, ça fait que la situation de l'enseignant s'y détériore davantage. Et les écoles, quand vous regardez les écoles qui ont été agréées, qui sont devenues des écoles publiques, ce sont des écoles privées. Ils ont créé beaucoup, ils ont profité de la volonté du chef de l'État de rendre l'enseignement gratuit et obligatoire pour pouvoir créer, pouvoir faciliter aux privés de pouvoir s'inscrire dans la logique de faire les écoles officielles. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve en face de 121 000 écoles. Ça fait que ça pèse énormément sur le budget de l'État. Et je crois que c'était une opportune, une occasion à cette époque, que les syndicalistes puissent lever le doigt pour dire non, on est en train de dire des systèmes. Et c'est le malheur pour notre pays. C'est que lorsque nous sommes en train d'observer, nous croyons que l'école appartient au ministre, nous croyons que le système, tous les systèmes appartiennent au ministre, et nous-mêmes qui sommes les bénéficiaires du système, nous ne pouvons pas revendiquer. Parce que nous avons peur, nous arrivons à ce genre de système, à ce genre de plainte. Donc chacun à son niveau devrait prendre des dispositions pour empêcher à Macaire, plutôt à Bakonga, et au ministre qui l'a suivi, de pouvoir nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Il y a eu la ministre de...
Pourtant, les syndicalistes ont dénoncé plusieurs mots sur Macaire,
Bakonga. Bakonga et l'autre, qui est l'autre de l'IDPS, qui ont travaillé pour détruire le système. Le président de la République a eu la volonté extrême de pouvoir rendre l'enseignement accessible à tous les enfants. Et c'est une très excellente idée pour laquelle nous sommes battus pendant près de 25 ans, aujourd'hui 30 ans, pour que tous les enfants congolais accèdent au système. Mais ceux qui vont gérer le système l'ont détruit. Ils ont voulu servir les intérêts. Lorsque l'excellence de la ministre actuelle, la ministre mène les enquêtes pour s'assurer de la qualité de l'enseignement, dans son discours qu'il a fait, dans son rapport qu'il a décliné dernièrement, vous remarquerez que dans ce rapport, il dit 16% d'enfants en quatrième primaire, il n'y a que 16% qui savent lire et calculer. Tu peux te rendre compte.
Et donc 84% qui ne savent lire.
Bah, il est bien le côté. Donc c'est la catastrophe. Nous sommes en train d'aller dans un inconnu. C'est-à-dire qu'on a mis en place le mécanisme pour nous anéantir totalement. Je crois que c'est quelque chose qui a commencé en 84 avec le programme d'agissement structurel pour détruire le système éducatif. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les résultats. Madame, la ministre actuelle n'est pas responsable de la situation. C'est une situation qui date de 84. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les résultats. Donc quand vous voyez ça...
Est-ce que ça n'a pas un lien avec les conditions de travail des enseignants lorsque ils ne sont pas bien payés, lorsque...
Je vous en prie, madame. Il y a près de 20 ans, l'enquête a été menée par la LISADEL en collaboration avec l'UNICEF. On s'est rendu compte que en ce qui concerne les recrutements des enseignants à l'école primaire, on recrute même les gens de l'ISTA pour enseigner les enfants à l'école primaire. Quelle enseignant que nous avons? Parce que M. Pouna l'a soulevé, même Mme
Tchiombo
l'a soulevé, quel enseignant que nous avons? C'est un problème dont eux-mêmes les syndicalistes devraient aider l'État à pouvoir recruter des enseignants. Même si la formation continue, avec les enseignants, les enseignants qu'ils ont maintenant, la qualité ne pourra jamais avoir lieu. Même si on leur donne chacun 1000 dollars, ce sont des gens incapables de pouvoir transformer les enfants, de pouvoir aider nos enfants à pouvoir avancer. Et puis, même le système en soi. Le système en soi forme des monstres, parce qu'aujourd'hui, les gens qui sortent du système éducatif, qui sont du reste les dirigeants que nous avons aujourd'hui, ne répondent pas aux besoins de l'État. Donc, les gens sont formés pour... On dirait que l'objectif de l'éducation, c'est parler français, écrire... Mais l'objectif devrait être former une personne consciente qui peut être utile pour l'État. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été formées avec l'ancien système éducatif, d'ailleurs, ils n'ont pas parlé de la refondation du système. Le système doit être refondé. On doit le remettre en question.
Monsieur Pouna l'a dit, il faut réqualifier le système.
Le système doit être refondé. Et aussi, les cours devraient avoir des objectifs précis. On ne doit pas enseigner pour enseigner, on doit enseigner par rapport aux objectifs, ce qu'on veut atteindre lorsque les apprenants auront assimilé les matières.
Et donc aujourd'hui, l'enseignement en RDC est en baisse.
Je vous dis
est-ce qu'on peut dire que l'enseignement est en baisse?
La situation est catastrophique. En baisse, c'est beau, c'est encore mieux. C'est le terme qu'il ne faut pas approprié. La situation est catastrophique. Je vous dis qu'il y a eu l'excellence de la ministre qui a mené l'enquête, qui s'est rendu compte. Déjà, en quatrième primaire, 16% d'enfants. Seulement 16% savent calculer, écrire. Alors c'est un problème, c'est un grand problème.
Les auditeurs sont très nombreux à appeler pour participer aussi à cette émission, donner leurs avis, si le standard Est-ce qu'on peut ouvrir déjà le standard pour prendre ces auditeurs? On va se rendre à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, pour écouter cet auditeur.
Michael Paembe de Kumbandaka, dans la province de l'Équateur. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril, la fête des enseignants, mais les enseignants ne sont pas encore. Bien qu'il n'y a pas de fête, mais chacun peut rester chez lui à la maison afin de prendre un cycle. Être un enseignant aujourd'hui en RDC, c'est une injure. Les enseignants, non seulement qu'ils souffrent pour leur paiement, mais aussi ils subissent ce qu'on appelle la désactivation. Ils peuvent être payés les mois de mars, mais les mois d'avril, ils ne se retrouvent pas dans les listings. Un phénomène que les enseignants subissent chaque mois. Bien qu'un enseignant ne mérite pas la valeur, mais son numéro matricule devrait être sécurisé quand même. Chaque fin du mois, les enseignants doivent d'abord chercher les listings pour voir si leur nom figure. Je demanderai au ministre de l'Enseignement et le directeur national de Dinacopé de trouver un moyen pour sécuriser les numéros matricules des enseignants auprès des Diprocopé et les chefs d'antenne. Allez voir seulement dans des banques comment les enseignants se bousculent pour leur paiement.
Alors Cécile Tshiombo, vous qui êtes syndicaliste, est-ce que vous êtes au courant de cette situation?
Madame,
on vous suit difficilement, Cécile Tshiombo. Essayez de rapprocher votre téléphone. Si vous avez activé le mode main libre, désactivez-le.
Je suis en train de... Parce que nous suivons la à tout moment, chaque jour, à chaque instant. C'est pour vous dire ceci, que tout que les camarades enseignants de ma vie est une réalité. Une réalité que nous faisons pas à pas pour que l'enseignant rentre dans le cerveau. Les agents du secteur.
On a du mal à vous suivre, Cécile Tshiombo. Essayez de bouger pour changer de position, peut-être pour améliorer la qualité de la ligne. Alors là, la réalisation va essayer de vous appeler parce que là, on ne vous entend plus du tout. Jean Bosco Pouna, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Alors, vous êtes aussi syndicaliste, hein, ce que dénonce Michel Baembe depuis le Mbandaka. Est-ce que vous êtes informé? Vous en êtes informé?
Oui, je crois que les camarades a bien parlé. Aujourd'hui, le système de désactivation, c'est un système hérité de Tony Waba. Et donc, vous savez, lorsque on nous met des ministres de tutelle sur base des équations politiques, eh bien, c'est ça c'est ça le résultat. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des enseignants qui subissent cette situation. Il a été payé, il est payé régulièrement chaque mois. Mais vous voyez, un mois qui arrive, eh bien, il n'a pas de salaire. C'est une véritable catastrophe. Mais je suis également d'accord avec Godé Kaembe lorsqu'il revient et lorsqu'il dit que l'État est surchargé par des recrutements clientélistes. Eh bien, qui est-ce qu'on recrute aujourd'hui? Aujourd'hui, vous retrouvez dans une école primaire, vous avez une classe, deux enseignants, trois enseignants. Et donc, il faut donner du travail à un enseignant qui ne sait pas remplir le journal de classe, qui ne sait pas préparer une fiche. Donc vous comprenez, c'est un véritable problème. Mais il faut revenir aux fondamentaux. Aujourd'hui, le système de notre système d'enseignement pose des problèmes. Et là, j'ai évoqué premièrement les problèmes du budget. Ce problème doit être réglé. Il faut également revenir sur la question des infrastructures. Il faut que ce problème soit réglé. Nous avons également le problème des équipements. Ce problème doit être réglé. Nous avons assisté au lancement des travaux sur la politique salariale. Vous savez que la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a porté cette revendication il y a beaucoup d'années. Aujourd'hui, le président de la République a lancé le 24 avril les travaux sur la politique salariale. Nous pensons qu'à notre niveau, qu'on va devoir régler les problèmes des conditions de vie des enseignants. Mais jusqu'à ce jour, madame, comprenez que les travaux, les commissions n'ont pas encore été convoquées, les commissions techniques. Et donc le ministre de la fonction publique qui doit véritablement jouer le rôle pour que l'on commence les travaux et qu'on puisse arriver à lever les options fondamentales, jusqu'aujourd'hui les travaux ne sont pas convoqués. Et qui est-ce qu'on va appeler plus tard? Et lorsque le dialogue social est bancal, lorsque le dialogue social est clientéliste, vous ne pouvez pas vous attendre à de très bonnes propositions. Parce qu'à ce moment-là, on n'aide pas le gouvernement, on n'aide pas le chef de l'État, et c'est lui-même le gouvernement qui recrute les syndicats clients. Je crois qu'à ce niveau, il faut absolument que nous puissions nous remettre en question. Toutes les parties, tous les acteurs de l'éducation vont se remettre en question, que ce soit les syndicats qui n'ont pas joué véritablement le rôle. Vous avez suivi Godeka Mbeki qui a vraiment chargé les syndicats pour dire que nous n'avons pas réussi à empêcher Tony Mwamba faire ce qu'il a fait, mais il a pratiquement raison. Mais parce que le dialogue social est vraiment clientéliste et discriminatoire. Aujourd'hui encore, Mme Raïssa arrive, il n'a jamais rencontré les vrais syndicats. Elle passe le temps à faire de conférences, etc. Mais les vrais acteurs qui sont dans son secteur, elle ne les a jamais rencontrés. Mais même pour la société civile du secteur de l'éducation, je crois que la Lisadelle, que nous tous nous connaissons, est-ce que la Lisadelle a déjà été reçue par Mme la ministre? Donc ce sont des vrais problèmes qui ne permettent pas qu'aujourd'hui nous puissions relever notre système d'enseignement. Et chaque ministre qui vient, sur base des équations politiques, il est là, il vient avec des concepts. Malheureusement, ces concepts sont totalement théoriques et ça ne nous permet pas de pouvoir relever le système. Il faut véritablement une remise en question et prendre un nouveau départ. Je crois qu'avec la politique salariale, si le gouvernement, cette fois, est responsable, évidemment, nous allons voir matérialiser ce programme, cette rénovation, cette innovation, cette réforme. En ce moment-là, l'enseignant aura un salaire, il aura une prime, il aura les soins de santé, il aura les allocations familiales et il aura à pouvoir bien former les enseignants. Voilà le plaidoyer que nous faisons en direction du gouvernement. Sans oublier que maintenant on va devoir organiser les épreuves certificatives, mais dans quelles conditions? Avec les enseignants qui ne sont pas payés, avec les enseignants qui sont à l'est du pays mais qui n'ont rien depuis le mois de janvier. Mais ça posera des problèmes, madame.
On va prendre cette fois-ci l'auditeur de Bukavu qui est en ligne. On va l'écouter, puis on revient dans ce studio pour la suite de l'émission.
Maître Ulimwengu Kitungano Joseph, depuis la ville de Bukavu. C'est déplorable de voir depuis l'accession de la RDC à l'indépendance et depuis l'avènement de la Constitution congolaise du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, ainsi que depuis la promulgation de la loi de 2014 sur l'enseignement en RDC, mais les enseignants continuent toujours à souffrir alors que c'est un métier dur et important dans un pays. Les problèmes que connaissent les enseignants dans l'exercice de leur profession sont nombreux et qui, en dépit de multiples plaidoyers conduisant même à des grèves, mais l'État congolais continue toujours à boucher les oreilles en abandonnant ses professionnels de la craie à leur triste sort. Les salaires médiocres, les conditions de travail difficiles caractérisées par les manques des infrastructures scolaires dans plusieurs écoles du pays conduisent à la régression du niveau d'éducation congolaise.
Cécile Tulombo, vous êtes en ligne?
Je suis.
Alors, juste un petit commentaire hein, par rapport à la vie ou à la réaction de Maître Limouengou qui nous a appelé depuis Bukavu Sud Kivu.
Mais vous comprenez par là que le non-respect de la loi qui tous en cause. Vous comprenez que si réellement il y avait respect de la loi, l'enseignement n'allait pas se retrouver dans un trou. J'ai suivi religieusement mon co-débatteur, Godeka Mbé, qui parle des syndicalistes qui ne se mettent pas en face de leurs partenaires pour pouvoir dénoncer. Mais notre co-débatteur sait très bien qu'il y a des gens en prison pour avoir dénoncé des choses. Et il sait que les syndicalistes sont à la première ligne. Nous voulons savoir, puisqu'il y a continuité de l'administration de l'État, qu'est-ce que madame a eu à faire pour que ce qu'elle a trouvé en route puisse être réalisé par rapport au taxisme. Puisque
il est grand temps que la loi soit respectée et que l'enseignant soit pris en charge convenablement. Nous avons les écoles. Monsieur Kayembe a parlé de 121 000 écoles aujourd'hui. Mais ces écoles sont créées par qui accordent des arrêtés à ces écoles. Et lorsque nous avons des bureaux gestionnaires pléthoriques, est-ce qu'un enseignant pouvait être pris en charge convenablement? Vous allez comprendre qu'il est grand temps que nous puissions tous ce que vous n'avez laissé de dire, nous remettre en cause. Nous devons nous auto-évaluer pour que le système soit repensé. Lorsque vous êtes ministre, vous êtes là depuis votre arrivée, vous refusez de recevoir ce qui peut vous dire qu'à tel endroit, en tel lieu, ça ne marche pas. Il y a la problématique de la gestion des bureaux gestionnaires en province. Aujourd'hui, ce sont les gouverneurs, ce sont les présidents des bureaux ou des députés provinciaux qui commencent même à suspendre les responsables des bureaux gestionnaires. Allez-y comprendre, la politique a mis la main sur l'administration et que l'enseignant n'est pas respecté. Prenons Kwilu, prenons Sankuru, prenons Chuapa, prenons Kasai Central, prenons Bakongo. Il y a les enseignants qui se plaignent sans pour autant oublier les enseignants du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Hier, nous avons démarché pour que ces enseignants aient leur salaire à travers Caritas, qui paye par des messages. Et c'est madame la ministre qui devait chercher à mettre en place une politique pour une stratégie pour que les enseignants aient leur salaire. Lorsque les administratifs qui travaillent, qui ont fait la guerre, qui prennent les devants, et que madame est là, en train d'observer lorsqu'on commence à crier, on a détourné l'argent, on a tout tourné ceci. Mais il y a risque que les politiques récupèrent la situation. Il y a risque. Ces enseignants qui, le mois de janvier, n'ont rien réussi. Et tous les enseignants de la République parlent de la fête. Et nous devons fêter dans la méditation. Tout simplement puisque les enseignants de la République n'ont pas été payés. Oui, celui qui parle a raison. Et même celui de l'Équateur. C'est raison.
On a vraiment des problèmes avec.
Repenser le système. Les programmes doivent être changés. Puisqu'aujourd'hui, l'enfant à l'école primaire connaît très bien le climat européen, américain et le climat congolais. Nous avons Singankou, il était à la mouchine du frère Zahir.
Merci Cécile Kayombo.
Le système doit être repensé et le programme doit être revu de la maternelle à l'université.
Programme revu, système repensé, tous dans cette émission, hein, vous convergez tous vers cette proposition, repenser le système. Avant de vous donner la parole, Godé Kayembe, on va écouter ces derniers auditeurs qui nous appellent depuis la ville de Bounia, dans la province de l'Ituri.
Maki de Gojistin, à partir de Bounia à l'Ituri. Nous constatons que le niveau de l'enseignement baisse de plus en plus en RDC, du fait que l'enseignant est socialement déconsidéré par le gouvernement congolais, et finalement l'enseignant se débrouille ailleurs pour satisfaire au moins sa petite famille. Le gouvernement fait des promesses irréalisables chaque début de l'année, et ça laisse à désirer. Pour améliorer la qualité de l'enseignement et former des hommes utiles, le gouvernement devrait améliorer même au minimum les conditions de travail de l'enseignant. Actuellement, il est difficile à tous les responsables de vivre avec un salaire de moins de 380 000 francs. Si cette négligence de l'enseignant continue, je pense que dans 20 ans, le pays sera enterré, car, et ça, Chinois disait, si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en vie humaine. Il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption.
Godé Kayembe.
Oui, merci beaucoup pour la parole, madame. Je voudrais commencer par le dernier intervenant. Lorsqu'il dit que on doit améliorer les salaires des enseignants. D'abord, je voudrais vous informer que j'ai fait les démarches pour rencontrer Madame ministre d'État, ministre de l'Éducation
nationale. Vous l'avez rencontré ou pas?
Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré avec un mot. Je lui ai dit, Madame, l'État congolais s'est convenu avec les enseignants, les syndicalistes qui sont réunis à Bibois. Le président de la République a posé la question aux syndicalistes. Quel salaire voudrez-vous proposer pour que la gratuité se réalise? Et les enseignants et les autres partenaires sont réunis à Bibois. Ils ont demandé au président de la République, ils ont dit, si vous donnez à chaque enseignant 200 dollars, je crois que nous allons laisser les parents tranquilles. La première année, l'État congolais paye aux enseignants 200 dollars. La deuxième année, 200 dollars. Et la suite, on commence à dire qu'ils ont moins de 100 dollars. Et ils font commencer à négocier pour ajouter 5 dollars. J'ai dit à Madame la ministre, je lui ai dit, Madame, demandez au ministre des Finances, ministre de l'Éducation, au ministre du Budget, que le chef d'État a pris les engagements avec les syndicalistes, qui devait payer à chaque enseignant 200 dollars pour qu'il y ait la gratuité de l'enseignement fondamental. Et si vous, tout ce que vous êtes en train de faire maintenant, dans quel pays du monde, ou pour que l'enseignement reprenne, on doit négocier avec les enseignants. Alors, c'est quoi ça? Il faut demander au ministre des Finances, le ministre des Budgets, qui doivent savoir que quand bien même il y a le nombre d'enseignants et d'écoles qui ont augmenté, il faut qu'on revienne au fondamental. Le fondamental, c'est l'entente entre les syndicalistes et les chefs de l'État, qui a débouché sur la déclaration de la gratuité. Chaque ancien devait toucher 200 dollars. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il touche? Je ne comprends pas. Et je lui ai dit, il faut faire pression sur les concernés pour que vous n'ayez pas de problème avec les enseignants. Deuxièmement, nous sommes en train de parler de la refondation du système. Le système congolais, c'est un système extraverti qui a été mis en place par l'Occident pour communiquer avec les indigènes. Donc, ce n'était pas un système qui devait permettre à ses conformes l'homme capable de s'occuper de son pays. Ce qui fait que tout le monde qui a été formé dans le système, en dehors de parler français et d'écrire, ils sont tous incapables de s'occuper de la République parce que, quand ils ont la chance publique, ils privilégient leur ventre, leur poche. Ils croient que quand on est ministre, quand on est DG, quand on a le poste de responsabilité, d'abord son ventre qu'on doit régler. Tout cela, c'est parce que le système est mauvais. Au départ, on n'a pas bien défini les objectifs clairs du système éducatif. Il faut qu'on revienne à ça. C'est extrêmement important. Il faut un débat national sur la refondation du système qu'il faudra pour ce pays, pour que la situation de la République du Congo puisse être rassurante. Sinon, nous allons vers la catastrophe. Deuxièmement, je dis à Madame la Ministre, vos prédécesseurs, je parle de Bakonga. Bakonga subdivise les sous-divisions. Dans une sous-division, on a besoin de 5 ou 15 personnes. Bakonga met 1000 personnes dans une sous-division. Ce qui a fait, et d'ailleurs c'est là qui a prévalu, à ce que la liste d'Adèle fasse une plainte contre lui pour qu'on puisse le chasser. Parce qu'on avait compris qu'il combattait la gratuité. Et aujourd'hui, il y a plus de fonctionnaires, donc des enseignants assis, que les enseignants debout. Et vous allez constater que, par exemple, là où on devait avoir, par exemple, 26 personnes dans une sous-division, le monsieur engage 1000 personnes. Donc, ça suppose que dans un local de 4 mètres sur 4, on doit engager 1000 personnes. On ne sait pas comment ils peuvent se mettre. Tout simplement pour charger le gouvernement. Donc aujourd'hui, et en dehors de ça, ils ont multiplié les écoles fictives. Lorsqu'il a été remplacé par Tony, si Tony était rationnel et s'il voulait aider les chefs d'État, il devait commencer d'abord par révoquer tous les arrêtés de Bakonga, revenir à la case de départ, et ça permettrait aujourd'hui que toutes ces plaintes ne puissent pas exister. Il a validé tout ça. Aujourd'hui, il a mis le président et l'État congolais dans une difficulté énorme. Même si l'État congolais pouvait accepter de pouvoir payer, doubler les salaires actuels. Donc, C'est-à-dire qu'il a affaire à plus d'un million de personnes à payer le salaire chaque mois. Et quand il va doubler, donc c'est que ça veut dire que chaque mois, l'État congolais doit être en mesure de payer plus de 200 millions de dollars. Ou plus de 200 millions de dollars à chaque enseignant à la fin de l'année. Donc il doit avoir 2,4 milliards de dollars qu'il doit payer aux enseignants.
Il y a un grand travail à faire dans ce secteur.
Il y a un grand travail énorme. D'ailleurs, c'est pourquoi, pour ma part, si moi j'étais ministre, la première chose, il faut assainir le système. Assainir le système, sortir le cadre organique, savoir qui fait quoi, et au niveau de l'administration, et quelle école qui est fonctionnelle, qui peut être utile pour la République, et on assainit le système, on réduit le nombre les effectifs avec le syndicalisme. Les syndicalistes doivent être le bras séculier du ministre pour l'accompagner dans la mise en œuvre de toutes ces réformes, de telle sorte que on puisse améliorer la situation des enseignants. Et les enseignants, quand on dit qu'un enseignant devrait être un vrai, pas les gens de l'histoire qui vont enseigner l'école primaire, ça n'a aucun sens. Même si l'économiste ne peut pas enseigner l'école primaire, c'est pour les enseignants, les gens formés à l'UPEN, à l'IPEN, ou bien formés en pédagogie pour enseigner les enfants. On ne peut pas donner l'enseignement de l'école primaire à n'importe qui.
Merci, Godé Kaïmé. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Je vais vous demander d'être assez concis dans vos réponses. Jean Bosco Pouna, que faut-il pour améliorer la qualité de l'enseignement en RDC?
Oui, et que faut-il pour améliorer la qualité de l'enseignement? Il faut déjà dire que le relèvement du système d'enseignement congolais ne dépend pas des ministres sectoriels. On vous a cité tous les ministres qui sont passés. Eh bien, aucun n'a réussi à relever le système. Le relèvement du système éducatif congolais dépend du gouvernement. Et si le gouvernement n'a aucune volonté politique réelle de pouvoir changer les choses, et comment vous dire que rien ne changera. On est allé vers la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est une gratuité sans contenu. Et la plupart des écoles de la Gombe, par exemple, l'école primaire, je veux dire, ces écoles ne sont plus au régime de la gratuité. Mais que fait Madame la ministre d'État, la pauvre? Elle ne peut rien faire parce que, bon, le système est déjà ancré, les gens veulent avoir des intérêts, les écoles
veulent... Qu'est-ce qu'il faut faire, Jean-Bosco Pouna?
Eh bien, l'enseignement est presque... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument mettre en place une véritable volonté politique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons parlé de la politique salariale. Cette politique salariale doit se matérialiser. Il faut que ça se matérialise parce que si ce n'est pas fait, ça sera vraiment difficile. Et puis, il faut dépolitiser l'enseignement. On ne peut pas continuer à avoir des ministres qui viennent sur base d'équations politiques et des recrutements fantaisistes qui se font. En ce moment-là, je crois que nous n'irons nulle part. Absolument, l'échec de notre système d'enseignement, en tout cas en grande partie, c'est la responsabilité, c'est aux acteurs politiques. Il faut absolument que cela change. Et en ce moment-là, lorsque le système est dépolitisé, nous pouvons gérer ce secteur-là avec les techniciens. Et je crois que les choses pourront changer.
Merci.
Et en le budget public efficient.
Merci Jean-Bosco Pouna. Cécile Tshiombo, vos propositions pour améliorer la qualité de l'enseignement en RDC. Soyez concis, s'il vous plaît. Hein. Soyez.
Il serait nécessaire de réévaluer le système éducatif congolais. Il serait important que l'enseignant sache être un éternel vacateur, un citoyen inconnu de la République. Il doit avoir un salaire conséquent, améliorer les infrastructures scolaires, assainir les milieux scolaires, dépolitiser le système éducatif congolais et revoir le nombre d'effectifs des bureaux gestionnaires pour que l'enveloppe salariale des enseignants soit maintenu à niveau et que l'enseignant puisse se retrouver à la fin de chaque mois et aussi évaluer le système de la bancarisation de la paye des enseignants.
Godey Kayembe, vous aviez déjà commencé à faire des propositions lors de votre précédente intervention. Alors, un mot de la fin, hein, parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission.
Oui, le mot de la fin, c'est de pouvoir, d'amener l'État congolais à pouvoir donner le pouvoir réel au ministre d'État pour assainir les systèmes. Parce que les systèmes supposent qu'il faut qu'il y ait le cadre organique qui doit pouvoir définir ce qui fait quoi au niveau du système, au niveau de l'administration. Au bureau fonctionnaire, qui fait quoi? De telle sorte qu'on réduise davantage le nombre de personnes au niveau de l'administration. Et l'argent qui sera récupéré permettra qu'on puisse augmenter le salaire des enseignants. Deuxièmement, réduire, publier la cartographie des écoles pour déceler les écoles fictives qui doivent être enlevées, déconnectées du système et trouver les vraies écoles. Et troisièmement, catégoriser les écoles. Il y a les écoles élitistes et les écoles de masse. Quand il s'agit d'écoles élitistes où les parents, par exemple les écoles catholiques où les parents payent plus, où les parents payent plus d'argent, que l'État puisse prévoir le frais de fonctionnement beaucoup plus élevé pour qu'ils reçoivent les primes, afin de ne pas perdre ce qu'ils gagnaient avant, la gratuité. Et cela permettra à ce qu'il y ait la paix au niveau du système. Et aussi prévoir le frais de gestion pour les écoles conventionnées. Parce que tout ce que nous avons comme problème, ou le refus d'implication, c'est l'absence des frais de gestion.
Merci, Joseph Godey Kayembe. Je rappelle juste que tous nos efforts pour avoir le ministère de l'Éducation nationale dans cette émission sont restés vains. Pourtant, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions adressées à Madame la ministre Raissa Malou. On espère qu'on l'aura prochainement dans une émission spéciale, hein, Dialogue entre Congolais. Et alors, on vous soumettra toutes les questions que les auditeurs, les auditrices de Radio Capi nous ont envoyées. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.